Alors Bruno Gazzotti était en dédicace jusqu'à présent, donc on l'attend dans les secondes qui viennent. Puis s'il n'arrive pas, on va commencer la discussion avec Fabien. Donc voilà, ben écoutez, d'abord je vous remercie d'être venu pour écouter cette petite causerie autour de l'album de la série Seul de Bruno Gazzotti, qu'on attend, et Fabien Wellmann.
Qui est là.
Qui est là. Fabien Wellmann, c'est le scénariste. Alors pour les enfants, c'est le monsieur qui raconte les histoires. Et on attend Bruno, celui qui les dessine.
C'est ça. Enfin, même si c'est pas que ça quand même, parce qu'il participe.
Bah justement.
Voilà, on va en parler.
Ça pourrait très bien être la première question. Donc je vous ai remercié d'être venu, puis surtout on apprécie beaucoup, et Fabien et moi, de voir autant d'enfants dans la salle, puisque c'est le public de cette bande dessinée. Normalement, il y a un micro qui doit pouvoir circuler. Voilà, il est posé sur la table. Donc si vous avez des questions à poser, surtout n'hésitez pas, nous vous passerons le micro et vous pourrez poser la question à votre scénariste et votre dessinateur préféré qui seront là pour vous répondre.
Et même si on n'est pas vos dessinateurs et scénaristes préférés, vous pourrez quand même poser des questions.
Ouais, moi, il faut ça que va, je fasse le politiquement
correct. Oui, c'est ça. N'hésitez pas, s'il y a une question n'importe quand, vous levez la main, vous me faites signe. Si on vous voit avec l'éclairage, on vous passera le micro tout de suite.
Voilà. Alors, je vais commencer par te poser une première question qui te concerne toi, finalement. On va démarrer mollement sans
Bruno. De toute façon,
Bruno
n'aime pas que super bien la scène, donc je peux parler à sa place des fois.
Ouais, mais c'est assez fréquent avec les attelages en bande dessinée. C'est en général, le dessinateur est un grand timide ou un grand taiseux, et on a un petit peu de mal. Alors tout d'abord, écoute, la première question peut être un petit peu bateau, mais comme il y a beaucoup d'enfants dans la salle, ce serait intéressant de leur raconter comment on travaille dans la bande dessinée, comment on devient scénariste de BD.
Alors que bon, il n'y a pas une seule manière de devenir scénariste.
Enfin, comment ça s'est arrivé à toi?
Dans mon cas, en fait, j'ai eu. Ah bah tiens, voilà Bruno Gazzotti. Tu peux approcher. En ce qui me concerne, ça s'est passé assez tardivement parce que quand j'avais votre âge, je voulais faire de la bande dessinée. Depuis tout petit, je voulais faire de la bande dessinée. Par contre, j'ai eu l'impression quand j'ai eu, je sais pas, 15-16 ans, qu'on a commencé à me demander ce que j'allais vraiment faire dans la vie, que j'étais au lycée, qu'on me demandait de m'orienter vers une carrière professionnelle, j'ai eu l'impression que ça allait être trop compliqué de faire de la bande dessinée, que si ça se trouve, j'aurais pas assez de talent, et que si je faisais une école de dessin, mais que j'avais pas de talent, bah peut-être que ça servirait à rien, et que ça plairait à personne, et que voilà. Donc j'étais très angoissé. Et du coup, j'ai fait complètement autre chose, j'ai fait une école de commerce. Bon, c'est vraiment complètement autre chose, qui d'ailleurs était dans cette ville, à Nantes. J'étais à l'école de commerce de Nantes. Et puis c'est pendant mes études que j'ai vu que ça ne me plaisait vraiment pas et que j'avais eu tort de ne pas au moins essayer. Voilà, je me suis dit, je n'ai pas envie, quand j'aurai 50 ans, de me dire j'aurais dû faire de la bande dessinée ou au moins essayer de faire de la bande dessinée. Donc je me suis dit, bon ben tant pis, j'ai fait fausse route avec les études de commerce, mais je peux encore rattraper le coup. Donc je suis sorti de mon école, j'ai eu mon diplôme, ce qui a rassuré mes parents. Parce que mes parents étaient très contents que j'ai un diplôme, qui m'a servi à rien, mais dans le cas présent, ils étaient contents que j'ai eu un diplôme. Et de là, j'ai commencé à me dire, en fait, je veux faire de la bande dessinée, vraiment. Et, sauf que je n'avais pas fait d'études de dessin, puisque j'avais fait des études de commerce. Donc c'était un peu compliqué de rattraper ce retard en dessin. Je me suis dit, je vais faire la partie la plus facile, c'est raconter une histoire, parce que ça me paraissait très facile. Parce que quand j'étais à l'école, je racontais des histoires à tous mes petits copains et je les faisais rire et je leur racontais des histoires de loups-garous qui explosaient sur des mines, quelque chose d'assez sympathique. Donc il y avait des morceaux de loups-garous partout. Ça leur plaisait bien. Et donc ça me paraissait facile. Et donc je me suis dit, ok, ça je vais le faire. Il s'avérait que c'était plus compliqué que prévu quand même. Mais c'est vrai que c'est plus facile de raconter une histoire pour n'importe qui. On peut tous raconter une histoire alors que tout le monde n'est pas capable de dessiner. Mais tout le monde peut raconter une histoire en disant « Hier, je suis allé acheter du pain, et puis il m'est arrivé ça, et ceci, et cela. » Donc ça me paraissait accessible. Donc je me suis lancé là-dedans, et j'ai commencé à travailler pour le magazine Spirou. Voilà.
Je suis en train de regarder dans la salle s'il y a des écrivains ou autres qui pourraient venir rebondir sur ce que tu as dit, si c'est pas si facile que ça de raconter une histoire. Donc le magazine Spirou, qui rentre dans ta vie assez tôt, puisqu'en plus tu viens de faire le dernier album de Spirou avec
Johan. Ça a mis plus de temps, mais en tout cas c'est vrai que j'avais un rapport très particulier avec le magazine Spirou, parce que mes parents étaient abonnés au magazine.
Comme beaucoup à cette époque-là.
Voilà, que mes parents lisaient de la bande dessinée, ce qui n'était pas toujours le cas de toutes les familles de cette génération. Et donc moi je suis tombé dans la bande dessinée vraiment tout petit et c'est resté. J'ai fait un tout petit peu de cinéma, un tout petit peu de dessin animé, une série qui s'appelle Avez-vous déjà vu, qui étaient des petits courts-métrages d'animation un peu comiques.
Wow.
Mais je reconnais que je reviens toujours à la bande dessinée parce que c'est là que j'ai le plus de liberté, le plus d'amusement. Et c'est la façon de raconter des histoires qui me convient le plus, surtout quand je travaille avec des gens talentueux, sympathiques et charismatiques comme Bruno Gazzotti.
La BD, c'est plus facile, non, de faire du cinéma ?
C'est quand même plus facile, oui. C'est pas que facile, mais c'est quand même plus facile, ça c'est vrai.
À la même échelle en plus, vous êtes quand même un peu moins nombreux.
Bah, c'est ça, il y a moins de gens qui donnent leur avis.
Alors, pour souhaiter la bienvenue à Bruno, donc, qui était en dédicace et qui a vraiment pris le temps de le faire comme il faut, on va lui poser la même question, comment on rentre dans la bande dessinée, c'est quoi ton parcours ? Et encore une fois, c'est comme il y a beaucoup d'enfants dans la salle, ce genre de questions sont toujours un petit peu des questions que les jeunes se posent, voire leurs parents. Donc c'est toujours important, je pense, de les poser dans ce type d'assemblée.
Oui, alors comment moi j'ai commencé, c'est depuis tout petit, je me suis toujours vu en train de dessiner et tenir un crayon dans la main. Et donc comme j'étais un garçon assez timide, réservé, je me suis vite rendu compte que dessiner pouvait attirer les regards. Comme je dessinais dans mon coin, puis j'allais montrer mes dessins, on me disait toujours « Oh, ah, c'est beau comme dessin ». Peut-être que ce n'était pas beau, mais en tout cas, moi, ça m'a encouragé à continuer. Et donc, c'est ce qui fait que ça me touchait. Je pouvais exister dans le regard des autres. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait être intéressant en dessinant un tout petit peu mieux que les autres. Et donc j'ai toujours continué à dessiner, j'ai toujours copié les bandes dessinées que j'aimais. Je lisais aussi beaucoup de bandes dessinées quand j'étais petit, ça c'est aussi très très important. Quand on devient auteur de BD, c'est en tout cas dans sa jeunesse d'avoir lu beaucoup de bandes dessinées parce que ça aide à comprendre ce qu'on fait et comprendre comment le faire bien. Et puis il s'est trouvé que je devais faire mes études et donc choisir la direction dans laquelle je voulais faire mes études. Et donc à un moment donné, je me suis dit, c'est soit pilote de chasse, mais comme j'ai pas de bons yeux, je porte des lunettes, je suis un peu myope, c'était pas possible. Et puis j'aime pas trop le côté militaire des pilotes de chasse, dommage. J'aurais bien aimé piloter des jets, mais pas au niveau militaire. Ou alors dessinateur de BD, parce que j'adorais ça, qu'on m'aimait bien quand je dessinais. Donc je me suis dit, je vais faire dessinateur de BD. Et donc j'étais à Saint-Luc, à Liège, en Belgique, qui est une école spécialisée dans l'apprentissage du dessin, de l'art en général, de 15 à 18 ans. Et donc j'ai passé mon bac à 18 ans dans cette école. Et c'est après... Je savais que je voulais faire de la bande dessinée. Saint-Luc n'était pas, et ça je le regrette un peu, directement orienté vers la bande dessinée. Mais par contre, ça m'a permis d'avoir une formation dans le dessin assez classique, qui fait que dans la BD, c'est pratique, parce que quand on fait de la BD, ce qui est important, c'est de savoir tout dessiner. Et comme mon ami Fabien, qui est ici scénariste, me fait dessiner plein de choses différentes, comme des animaux ou toutes sortes de véhicules bizarres ou de constructions bizarres, ça permet de savoir les dessiner sans trop de problèmes. Et donc moi je voulais absolument publier dans le magazine Spirou, puisque tel que Fabien, ça c'est aussi un des points communs, c'est qu'on était abonné dans la famille au magazine Spirou et au magazine Tintin. Donc moi mon rêve c'était de travailler pour le journal de Spirou. Et donc à 18 ans j'ai été me présenter avec ma farde sous le bras chez le rédacteur en chef du journal, qui a patiemment regardé mes dessins. Il a trouvé que c'était pas mal et il a dit je vous rappellerai. Et je me souviens très bien, quelques jours plus tard, j'ai eu ma première commande de dessin, donc une illustration pour un tout petit article. C'était un minuscule dessin à faire et pour moi c'était le paradis, parce qu'enfin j'allais être publié dans le journal Spirou. C'est comme ça que ça a commencé, et puis après c'est le travail, c'est travailler encore et encore et encore et encore, et puis arriver à faire des livres et de plus en plus, et voilà comment on se retrouve ici à être interviewé pour savoir comment on devient dessinateur de BD.
Je rebondis sur ce que dit Bruno, une chose qui me paraît très importante à transmettre, même justement à des enfants aussi, et à leurs parents, c'est que la joie qu'on a quand on commence à travailler dans quelque chose qui nous passionne, Surtout quand on a essayé de faire autre chose, ce qui a été mon cas, c'est juste le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'entre les fois où j'allais me lever pour aller dans une entreprise où j'avais pas du tout envie d'aller travailler, mais alors vraiment pas, et quand le réveil sonnait, c'était horrible. C'est-à-dire que je me disais, oh non, il faut que je me lève, c'est atroce. Et le moment où j'ai commencé à faire de la BD, qui était certes pas très bien payée, certes qui inquiétait mes parents quand ils se sont dit, oulala, il va vers la BD, qu'est-ce qui va nous arriver ? Mais que tous les matins, j'étais prêt à me lever et à bondir du lit en me disant, mais c'est incroyable, je vais faire un truc qui me plaît. Ben, ça mérite de se poser la question vraiment dès tout jeune, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et d'essayer. Et puis si ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais essayez de le faire. Et je dis aux parents que des fois, ça peut fonctionner, et on peut en faire son métier. Il y a plein d'autres choses qui existent, il n'y a pas que la BD. Il y a plein de métiers créatifs où on peut s'éclater. Le tout, c'est que ça vous plaise, et que vous ayez vraiment très envie de le faire. Il ne faut pas commencer à faire comme je l'ai fait au début, à aller vers des métiers en disant, oui, mais c'est parce que j'ai peur de faire quelque chose qui me plaise. Il faut y aller. Et puis si ça ne marche pas, ça ne marche pas, ce n'est pas très grave. Il faut essayer, et puis si on se plante, on passe à autre chose.
Ouais, c'est quand même bien d'avoir son bac au minimum.
Ah oui, oui, de faire quelques études. Quelques études. Mais je n'ai pas dit que c'était antinomique avec ça. Ce n'est pas opposé avec le fait de faire des études.
Je rassure un peu les parents qui se demandent si leurs enfants veulent faire le dessin. C'est vrai que le bac, c'est quand même intéressant de l'avoir.
Et c'est d'autant plus intéressant que même quand on fait des histoires bizarres avec des singes qui attaquent des enfants ou des choses mystérieuses dans des albums, il faut une certaine culture générale. Ça se voit peut-être pas dans ce que j'écris, mais tout ce que j'ai appris jusqu'au bac et les études que j'ai faites après, elles m'ont pas plu parce que c'est pas ce que j'avais envie de faire, mais elles m'ont appris énormément de choses. Et de garder une curiosité, comme le disait Bruno, déjà de lire plein de bandes dessinées, c'est important, mais de lire plein de livres, ça m'a servi. De regarder des émissions à la télé, des documentaires.
De voir plein de films.
Voilà, être curieux, être tout le temps curieux, toujours ouvert sur plein de choses, ça c'est ça qui fait votre culture générale. Et c'est ça qui fait que quel que soit le métier que vous faites plus tard, bah vous aurez une façon de le faire qui sera votre manière à vous, parce que vous aurez acquis
plein de
choses.
Ou même de faire de la maths, ça apprend juste à réfléchir, et bah c'est toujours intéressant.
Donc c'est un mélange des deux. Il faut avoir cette culture générale, il faut étudier assez. Donc là, je suis d'accord qu'avoir au moins le niveau du bac, c'est important. Par contre,
pour rassurer les parents.
Par contre, c'est vrai aussi que je vous engage à bien réfléchir à tout ce qui pourrait vous plaire et à envisager de le faire. Et puis là encore, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Moi, par exemple, j'avais aussi envie d'être chanteur. J'ai essayé, ça n'a pas marché.
Heureusement.
Mais je chantais pas mal, mais j'étais vraiment trop stressé sur scène. Ben, j'ai vu que j'étais pas heureux en faisant ça. Je croyais que ça me rendrait heureux, et puis ça n'a pas marché. Alors que la BD, je croyais que ça me rendrait heureux, et ça m'a rendu heureux, mais j'ai juste essayé.
Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux pour seul? Vous êtes, en général, il y a plusieurs méthodes pour avoir des scénaristes et des dessinateurs de bandes dessinées qui travaillent ensemble. Soit ils décident de monter un projet ensemble parce qu'ils se rencontrent, ils se croisent, ils sont copains et ils ont envie de travailler ensemble. Soit c'est à la maison d'édition, l'un a l'idée du scénario par exemple, et puis l'éditeur dit attends, moi je pense à machin, tu pourrais peut-être travailler avec. Alors comment ça s'est passé pour vous?
Il y a un type qui m'a bousculé. Non, je laisse raconter Fabien. Il raconte mieux que moi. Je raconte en dessin et Fabien raconte tellement bien.
C'est gentil.
Là, il va falloir en parler encore un peu.
Oui, c'est ça. Alors en fait, moi, je venais de commencer dans le magazine Spirou. Donc je faisais des petits... Ben, comme décrivait Bruno pour ses premiers boulots. C'est-à-dire que moi, je faisais tout ce qu'on me demandait de faire. Il fallait animer un sommaire. J'écrivais un sommaire un peu rigolo. Il fallait faire des jeux. Je faisais des jeux. Il fallait faire une petite nouvelle. Je faisais une petite nouvelle. J'étais juste tellement heureux de gagner un peu d'argent, parce qu'au début, c'est pas beaucoup. Je précise au passage, c'est pas un métier qu'on fait pour l'argent. On peut gagner sa vie au bout d'un moment, mais c'est pas pour l'argent qu'on est motivé. Mais donc j'ai commencé à faire tout ce qu'on me demandait de faire, mais j'apprenais. C'est-à-dire que plus j'écrivais d'histoires, plus j'apprenais. Et puis j'ai fait une histoire courte qui est devenue une série par la suite, mais une histoire courte qui s'appelait Green Manor.
Ah oui.
Qui sont des petites nouvelles policières qui se passent à l'époque de la reine Victoria en Angleterre.
Pleine d'humour noir.
C'est une forme d'humour assez sombre. Et il se trouve que j'ai eu un coup de fil. Moi, j'habitais chez mes parents à l'époque parce que je gagnais quand même pas beaucoup d'argent et mes parents me logeaient en espérant qu'un jour, peut-être, je gagnerais ma vie quand même. Ce qui a fini par arriver. Et donc, j'ai reçu un coup de fil de Bruno. Comme je connaissais très bien son travail parce qu'il faisait déjà la série Soda à l'époque et que c'est une série que j'appréciais beaucoup, j'ai cru au début que c'était un gag en fait, qu'on me faisait un canular au téléphone, donc j'ai failli l'envoyer bouler en disant ouais pas à moi hein. Mais en fait c'était bien lui. Il m'a dit qu'il avait bien aimé cette nouvelle et il m'a proposé qu'on se voit à Paris pour discuter d'une éventuelle collaboration qui à l'époque n'était pas du tout, c'était pas seul, c'était l'idée de travailler ensemble plutôt sur des histoires courtes de science-fiction.
Oui, je confirme. Donc moi j'ai téléphoné à Fabien juste parce que Je lis le Spirou, je lis pas mal de BD. Quand j'ai lu sa première histoire policière, je me suis dit, waouh, là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un signal fort dans ce qu'il raconte qui est à la fois classique, parce que moi, j'aime bien la bande dessinée dite classique dans le sens où on sait bien raconter les histoires, et un côté moderne qui reprend certains clichés des histoires policières pour en faire, pour raconter une histoire avec de l'humour complètement noir. Donc cette histoire m'a beaucoup marqué. Je me suis dit qu'il faut absolument que je contacte ce jeune scénariste et néanmoins prometteur, parce que j'avais le temps à ce moment-là de pouvoir travailler sur autre chose que Soda, et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je suis ravi parce qu'on est arrivé à faire une série qui nous ressemble vraiment. Et c'est aussi dans la bande dessinée, il faut aussi, ou dans les métiers artistiques, il faut aussi savoir saisir sa part de chance. C'est-à-dire que si j'avais apprécié le travail de Fabien sur cette histoire-là, et si j'avais pas pris la peine de lui téléphoner pour lui dire « j'ai vraiment bien aimé ton histoire », on serait passé à côté de peut-être quelque chose. Donc,
J'aurais jamais osé l'appeler, moi j'étais trop timide. Je reviens sur un point qui caractérise souvent les gens qui font de la bande dessinée, c'est que souvent c'était des enfants assez timides. C'était pas les champions de foot de l'école quoi, en général, c'était plutôt ceux qui sont dans un
non,
coin et qui savent pas trop comment s'exprimer vis-à-vis des autres, sauf par le dessin, ou moi c'était les blagues, je faisais des blagues. Et c'est vrai que du coup j'ai gardé cette timidité, ça se voit peut-être pas quand je suis sur scène comme ça parce que j'ai combattu ça, mais j'étais assez timide et j'aurais jamais pensé même appeler Bruno parce que pour moi il faisait partie déjà des professionnels aguerris, ce qui était le cas, alors qu'on a quasi le même âge, c'est-à-dire que t'as commencé beaucoup plus tôt que moi, donc ça, la différence elle est là, le professionnalisme il l'a acquis avant moi. Un autre point sur lequel je veux m'attarder, c'est ce qu'il a évoqué sur la première histoire que j'ai faite dans Spirou, en disant c'est classique et en même temps il y a des choses nouvelles, on joue avec ce qu'on appelle des clichés. Ce qu'on appelle un cliché, c'est un truc qu'on a tellement déjà vu plein de fois que tout le monde le connaît et que ça devient un petit peu embêtant de le revoir encore et encore. Mais dans Seul, par exemple, il y a un certain nombre de clichés, c'est-à-dire qu'il y a des idées qu'on a déjà vues ailleurs. Le fait que des gens soient tout seuls dans une ville, par exemple, il y a beaucoup de films où il y a ça, où il y a des gens qui doivent vivre tout seuls. Peut-être que vous avez vu Je suis une légende, par exemple, qui est un film un peu effrayant.
Avec Will Smith.
Avec Will Smith, qui est adapté d'un roman de science-fiction. Donc ce type de récit où des gens se retrouvent tout seuls parce que tout le monde a disparu, on ne l'a pas inventé. Ce genre d'histoire, ça existe depuis très longtemps. Ce qui fait
on avait vu même le film quand nous on était petits, une autre version.
Oui, parce qu'il y a une première adaptation de Je suis une légende par Richard Matheson lui-même, le scénariste.
Et comment il s'appelle, Richard Burton? Charlton Heston. Et donc, en fait, ce qui est important quand on écrit une histoire, c'est qu'il faut à la fois qu'il y ait suffisamment de choses que les lecteurs connaissent déjà un peu, qu'ils ont envie de retrouver. Et puis, c'est aussi d'inventer des nouvelles choses. Et dans les sources qui nous ont servi pour la série Seul, et dont j'ai parlé à Bruno dès qu'on a parlé de ce projet, ce qui est arrivé 2-3 ans après notre rencontre, il y a un roman de Golding, qui est un auteur anglo-saxon, qui s'appelle Sa Majesté des Mouches, et qui est un roman qui est plutôt pour les adultes, mais où les héros sont des enfants. Les héros sont des enfants, mais par contre, ils sont très durs entre eux. Et il y a un ou deux enfants qui finissent par mourir dans l'histoire. Et quand moi, j'ai lu ça enfant, ça m'a complètement marqué en me disant, ça alors, on peut écrire une histoire sur les enfants, mais où il y a de la violence. Où il y a quand même, parce que bon, si vous connaissez Seul, et j'en vois quelques-uns qui ont quand même les albums dans les mains, vous voyez que c'est une série qui est un peu violente quand même. Il y a des fois du sang sur la couverture, il y a des choses qui ne sont pas faciles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de parents de nos lecteurs qui sont pas très à l'aise avec ça en disant « Dites donc, votre série pour les enfants, là, vous êtes sûr qu'elle n'est pas plutôt pour les adolescents ?» Et Bruno et moi, à chaque fois, on leur dit « Nous, quand on était enfants, c'est exactement ça qu'on voulait lire. » Et je crois, si j'en crois le premier rang au moins, en tout cas, je crois qu'on n'est pas les seuls à penser ça. Qu'on peut faire une BD qui est, appelons ça tout public, parce qu'elle est pour les enfants, mais il s'avère que les adultes aiment bien la lire aussi, qui est un peu violente, où il y a quand même des enfants qui meurent, où il y a des thématiques un petit peu tragiques. Mais je crois que moi, c'est ça que j'avais envie de lire quand j'étais enfant. Et quand on écrit, on est toujours en train de penser à l'enfant qu'on était avant. Et on écrit pour l'enfant qu'on est encore, en fait.
Quand vous vous êtes rencontrés, donc vous étiez tous les deux en train de travailler sur du polar, puisque toi, tu étais sur Green Manor et Bruno, tu étais sur Soda. Oui. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la science-fiction à la base?
Parce que je pense qu'on s'est rendu compte... C'est vrai qu'en fait, la première histoire que j'ai lue de Fabien, c'était une histoire policière. Donc quand on s'est rencontrés en vrai, dans un café, on a commencé à discuter. Et on s'est rendu compte très vite qu'on était tous les deux de fervents lecteurs de science-fiction, de BD et de littérature.
Je précise qu'il y avait aussi un autre auteur qui s'appelle Ralph Meyer, avec qui j'ai aussi travaillé par la suite, et avec qui on a fait un album ensemble à trois.
De science-fiction. Donc on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes lectures, les mêmes références cinématographiques, les mêmes références littéraires, et le même âge. Et c'est ce qui fait qu'on on s'est plus tout de suite.
Non, mais effectivement, ce qui est étonnant, c'est que ce que fait Bruno sur Soda et du polar, mais assez bizarrement, quand j'ai eu l'idée de Seul, un jour, je me suis dit, ça y est, j'ai une idée. Je crois qu'enfin, j'ai envie d'écrire quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps, c'est comment renouveler le même thème que Sa Majesté des Mouches. C'est des enfants tout seuls sur une île dans, oui, Sa Majesté des Mouches.
C'est ce qu'on appelle une Robinsonnade.
Une Robinsonnade, parce que ça fait référence à Robinson Crusoe, qui est un personnage célèbre de la littérature. Sauf que quand j'ai eu l'idée de Seul, je me suis dit, la vraie bonne idée là-dedans, c'est qu'on va faire une Robinsonnade, donc avec des enfants tout seuls ou des gens tout seuls, mais dans une ville. Et donc, j'aimais bien cette idée que ce soit des enfants, j'aimais bien l'idée qu'ils soient dans une ville, donc ils pouvaient faire plein de bêtises, comme conduire des voitures, casser des vitrines, voler des jouets, tout ça, j'aimais bien. Et assez bizarrement, quasi tout de suite, je me suis dit, Bruno serait la personne idéale pour dessiner ça, alors même qu'il faisait du polar, mais je crois qu'en fait, le dessin qu'il avait mis au point sur Soda m'a parlé tout de suite. Il y a un mélange de noirceur et il y a un mélange de naïveté, même si le mot n'est pas tout à fait juste, mais il y a une clarté dans son dessin qui m'a frappé. Et ce qui est assez drôle, et je crois que c'est assez significatif des fois des rencontres, c'est que je crois qu'on avait perçu l'un et l'autre qu'en fait il y avait des thèmes qui nous étaient communs, dont on n'avait jamais parlé, mais il s'avérait quand on en a parlé que c'était incroyable en fait, et en particulier cette notion de l'enfance, il s'est avéré que c'était un point commun énorme qu'il y avait entre nous, dont on n'avait jamais parlé avant, mais quand je lui ai proposé l'histoire, il a tout de suite dit oui, mais vraiment tout de suite.
Oui, ce mélange de dureté qu'il peut y avoir, de dureté et de naïveté, de gentillesse qu'il peut y avoir tout simplement entre les gosses dans une cour de récré.
Oui, parce que là encore, je m'adresse aux parents plutôt. C'est que ceux qui nous reprochent parfois qu'il y a un peu de violence dans la série, j'ai tendance à essayer de leur rappeler ce qu'était leur enfance dans une cour de récré. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, il y a un très bon documentaire qui s'appelle Récréation, je crois que c'est de Claire Simon, qui est un peu terrifiant sur ce qui peut se passer dans une cour de récré entre des enfants. Et ceux qui le vivent en ce moment peuvent peut-être s'en rappeler plus que nous. C'est-à-dire que oui, on s'amuse, mais des fois on se met des coups de pied aussi, des fois on essaie de se griffer le visage, des fois il n'y a pas que du fun. Et nous, on essaie de se rappeler de ça. Quand on est adulte, c'est que l'enfance n'a pas été cette espèce de paradis qu'on nous vend après en disant « Oh, l'enfance, c'est super, il se passait que des bonnes choses ». Non, il y a des moments de souffrance quand on est enfant, il y a des moments où on se pose des questions philosophiques, pour reprendre
des questions existentielles même.
Bah, quand j'étais enfant, je me posais énormément de questions sur la mort. Je me rappelle enfant, je me revois encore en train de me dire « Bon alors, j'étais dans un immeuble, alors si je saute du 6e étage, bon je vais mourir ». Ça, j'avais bien compris quand même. Mais si je meurs, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il se passe un truc ou pas? Et je pensais à ça constamment. Et j'en parlais pas à mes parents parce que je crois que je commençais déjà à voir que peut-être ils le prendraient bizarrement. Et quand on fait Seul avec Bruno et qu'on pose des questions un peu bizarres et qu'on pose des situations un peu violentes, on espère que parfois des enfants poseront la question à leurs parents de dire... d'échanger cette BD et d'en discuter ensemble. On aimerait bien que ça soit une occasion de discussion que moi, par exemple, j'ai pas osé avoir avec mes parents quand j'étais enfant.
Oui, pour moi c'est pareil, c'est que cette BD soit un moyen aux enfants de pouvoir parler à leurs parents ou les parents oser poser des questions à leurs enfants pour se rendre compte que quand on est enfant, et moi je m'en souviens aussi, pareil que Fabien, c'est que j'avais des questions quasi existentielles, philosophiques sur la vie, la mort, et que ce sont des moments qu'on oublie, et bizarrement quand on a fait cette BD seul, c'est pas pour rien. C'est qu'on s'en est souvenu beaucoup plus facilement depuis qu'on travaille sur cette BD qu'avant. Donc oui, j'ai vraiment envie que cette BD soit un moyen pour les parents et les enfants de pouvoir parler de choses difficiles comme la vie, la mort, ce qui se passe avant, après.
Il y a une des plus belles récompenses qu'on ait eues dans notre métier d'auteur, outre des fois il y a des prix, des choses comme ça, les prix ça fait plaisir, mais c'est autre chose. Une des plus belles choses qui m'a été dite sur la série, c'était une psychiatre qui nous avait dit que une de ses patientes, une jeune patiente de 13 ans qui avait des problèmes dans sa vie, des problèmes compliqués, avait énormément parlé de Seul. parce que c'est une série qui l'avait marqué et qu'il y avait des choses qui la faisaient réagir et ça servait de début de dialogue pendant les séances avec sa psy. Moi, pour moi, ça, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Et je ne dis pas que tous mes lecteurs sont bizarres et ont des problèmes dans leur tête. Ce que je vois, c'est que moi, j'étais bizarre, que j'avais des problèmes dans ma tête et que je partage ces questions avec les lecteurs et qu'a priori, il y a un retour.
Oui, que bizarrement, j'avais le même genre de problème.
Oh la sale image qu'on va donner aux parents.
Ouais, c'est pas des maisons d'édition en fait, c'est des asiles d'aliénés si vous voulez tout savoir. Non, bon, je vais rassurer tout le monde. On sait aujourd'hui que à la fois la littérature pour la jeunesse et la bande dessinée pour la jeunesse, et Seul en est un exemple tout à fait étonnant, que cette littérature-là permet surtout d'aborder les grandes thématiques. Donc là, en l'occurrence, c'est effectivement la mort, la peur, ce genre de choses.
L'abandon.
L'abandon. Permet surtout d'aborder ces thématiques en les intégrant dans un scénario, dans une histoire qui, de fait, donne un sens aux choses et permet d'accompagner une réflexion. On n'est pas du tout dans de la BD violente, cruelle, déstabilisante ou traumatisante. Hein. Les choses sont tout à fait saines pour les lecteurs, quand même.
Tu fais mal de le préciser. Non, mais c'est vrai que...
ça peut être effrayant, parfois.
Non, mais bien sûr, mais à la fois... En fait,
il n'y a pas de sang sur les couvertures.
Non, mais puis des fois, c'est de la peinture rouge.
Non, il n'y a pas de couteau non
plus. Non, en fait, on essaie de trouver un juste équilibre dans la série entre plusieurs choses. Déjà, il y a deux choses qui sont très importantes dans ce qui fait cette série. C'est qu'elle doit être aussi angoissante qu'elle est drôle et amusante. C'est-à-dire que... Si elle n'était que amusante, oui, ça serait du divertissement et voilà. Si elle était que angoissante, effectivement, ce serait quand même un peu embêtant parce que ça serait, on lirait le truc, on aurait peur, on voudrait le reposer. C'est toujours les deux, c'est-à-dire que les personnages vivent des choses des fois très dures, mais ils s'en sortent toujours. Oui. Ils sont toujours, en plus, ils sont unis. Le titre, c'est pas pour rien que c'est seul avec un S à la fin. C'est que certes, ils sont seuls, ils sont abandonnés, mais ils sont seuls ensemble. Et c'est pour nous hyper important que ce soit un collectif et un groupe qui s'en sortent.
Et donc, c'était vraiment une volonté de votre part à tous les deux. Après, vous nous direz comment ça marche pour le scénario, qui dit quoi, comment. C'était vraiment une volonté pour vous d'avoir à la fois donc, ces effets de comique pour ponctuer les effets plus graves et plus dramatiques, d'avoir également surtout des personnages attachants, évidemment, mais surtout, je suppose que c'est un choix de votre part, qu'ils soient totalement ancrés dans leur vie quotidienne et avec des réflexes tout à fait ordinaires d'enfants. Puisque d'un album à l'autre, on a par exemple les peluches qui reviennent systématiquement pour bien nous rappeler qu'on est dans l'enfance, que ce sont des enfants qui se comportent comme des enfants. Enfin, y a un truc qui, moi, m'a fait mourir de rire dans le premier tome, mais il y en a d'autres qui m'ont fait rire après aussi. C'est la première fois qu'ils doivent faire la vaisselle. Le gamin qui met tout dans la piscine,
Avec du produit vaisselle.
Avec le produit vaisselle et qui a battu des pieds pendant plusieurs heures pour que ça mousse. Et donc, on est dans la quotidienneté qui enlève justement la gravité et les tensions dramatiques.
C'est exactement le souvenir que je garde de l'enfance et qui m'est constamment confirmé par ce que je vois de mes neveux et nièces, à savoir que l'enfance, ou la vie en général, mais c'est beaucoup plus fort dans l'enfance, c'est un mélange de moments de très grande gravité. On peut penser à des choses très profondes et très dures. Et juste après, on peut être en train de s'amuser. Moi, j'ai vécu, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, un décès dans ma famille. Donc mes neveux et nièces, c'était mon père et c'était donc leur grand-père. On venait de vivre ça, ils venaient de décéder, c'était donc un moment très grave. Une heure après, ils étaient en train de monter tout un stand pour vendre des albums de Seul à des gens du voisinage, pour payer un bouquet à ma mère. Et ils étaient en train de s'éclater, mais comme des fous. Ouais. Et il n'y a pas d'opposition entre les deux. Pour moi, c'est qu'il y a une énergie de vie, qui m'a fait un bien fou. Et ce qu'on voulait dans Seul, c'est que ça soit ça. C'est qu'ils risquent leur vie à chaque instant, il se passe des choses terribles. Mais juste après, ils font une énorme connerie qui nous fait, nous, rigoler parce qu'on trouve que c'est des fois à côté de la plaque, des fois au contraire très touchant. Et c'est ce mélange-là qui est important à garder. Des fois, je ne dis pas, on est plus dans le côté marrant, des fois, on est plus dans le côté grave. Mais on essaie de garder toujours cet équilibre, même si alors, le cinquième album, par exemple, est assez grave. Il est plus que les autres. Mais dans le sixième, on renoue encore avec des moments de gag, avec des moments, bizarrement, alors que le thème est grave, on renoue avec de l'humour et du divertissement.
D'accord. On n'a pas encore lu le sixième, de toute façon.
Et on n'en parlera pas plus.
Non, le mélange sera toujours la caractéristique de la série. C'est l'insouciance de l'enfance fait en sorte qu'on peut passer à travers beaucoup, beaucoup de choses. La naïveté et l'humour fait qu'on peut s'en sortir aussi. Donc, c'est quelque chose de la vie qui est important.
C'est une leçon de vie.
Oui, c'est une leçon de vie qui permet de s'en sortir. Et donc, c'est quelque chose qu'on a envie de partager aussi avec le lecteur.
Alors, on a un jeune homme qui a une question à vous poser au premier rang.
Il va paraître quand, le premier de sixième
qui est le
C'est pas totalement une erreur.
Oui, c'est le premier du deuxième cycle.
De la deuxième série.
C'est vrai. Alors, il devrait paraître vers mai ou juin de l'année prochaine. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours un an entre chaque album, parce que c'est assez long de faire le dessin, en particulier. Pour le scénario, il me faut à peu près 2 ou 3 mois pour écrire l'histoire. Par contre, pour le dessin, on ne peut pas faire autrement que de mettre à peu près un an pour le dessiner, surtout si on veut que ce soit très bien dessiné.
Oui, il me faut plusieurs jours pour dessiner une page. Je ne peux pas faire plusieurs pages par jour, donc il y a tellement de détails. J'aime bien dessiner les décors et que ce soit le plus... je sais que ce soit le plus joli possible, donc ça me prend plusieurs jours pour dessiner une page, donc à peu près c'est 10 mois de, juste pour le dessin et encore 2 ou 3 mois pour faire les couleurs.
Comment vous travaillez sur le scénario? Parce que visiblement c'est une série que vous nourrissez tous les deux, ensemble. Comment ça se passe? Parce qu'il arrive aussi souvent dans la bande dessinée qu'on ait des scénaristes très, qui savent tout à fait ce qu'ils ont à dire et qui, ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent le faire, et qui donnent toutes les consignes au dessinateur qui va réaliser ce qu'on lui demande. Il y a moins d'échanges.
C'est exactement ce que j'essaie de faire, mais Bruno, il n'arrête pas de m'embêter.
Bah, oui, je ne peux pas m'empêcher. Donc. Et Fabien, arrête pas de m'embêter sur le dessin.
Voilà, en fait, on s'embête tout le temps. Non, la notion qui consiste à dire que le scénariste fait son histoire dans son coin et le donne au dessinateur, certains scénaristes le font. C'est ce que je voulais faire au tout début, quand j'ai débuté, parce que je trouvais que chacun avait sa place et qu'il ne fallait pas mélanger les deux. Et j'ai beaucoup changé là-dessus. Moi, je crois maintenant que l'important, ce n'est pas est-ce que c'est mon scénario, à moi, rien qu'à moi, c'est est-ce que l'album est bien. Dans le cas de Seul, ce qui se passe, c'est qu'on s'est trouvé une thématique commune, un thème qu'on aime beaucoup, c'est les enfants tout seuls. Que c'est souvent moi qui propose quelques grandes lignes de ce que pourrait être la suite, mais Bruno réagit et me dit tiens, peut-être qu'il serait intéressant c'est de rajouter ça, de développer ce personnage, il me donne des idées.
Oui, je te demande si c'est une bonne idée ou pas, et c'est en fonction du scénario de l'histoire que tu as envie de raconter, alors là tu me dis si c'est intéressant ou pas.
C'est ça.
Mais tu me laisses toujours le choix de proposer ce que j'ai à proposer.
Et inversement, si Bruno ne veut pas dessiner quelque chose, bon, j'essaie de le pousser dans des directions qu'il ne sait pas forcément faire. Je lui ai fait faire un parc d'attractions alors qu'il n'aimait pas dessiner les parcs d'attractions.
Les animaux.
Plein d'animaux, des personnages par dizaines alors que ça s'appelle Seul. C'est un petit peu une arnaque pour lui. Il a signé en croyant qu'il ferait que 3 personnages et puis il y en a 60.
Je me suis bien fait avoir.
Voilà.
Mais en fait, pour aller plus vite, qu'est-ce qu'il aime dessiner? Parce que là, on voit tout ce qu'il aime
faire. Moi, ce que je vois, c'est ce qu'il sait très bien faire. Il sait très bien faire les voitures. Donc j'essaie de faire des petites cascades avec des voitures toujours, je trouve ça assez chouette. Il sait très bien faire les grosses armes, les gros guns, comme on dit dans
Voilà.
Je trouve qu'il fait ça très bien. Il y a une arme, mais d'ailleurs c'est intéressant, c'est qu'elle est très symbolique. Pendant tout le long du premier cycle, cette arme qui est le pistolet, le revolver en fait du père d'un des personnages, est très symbolique parce qu'en fait, les enfants l'utilisent presque jamais. Mais à chaque fois, elle a un impact sur l'histoire. Donc, on parlait d'un sens moral à l'histoire. Il y en a un, on n'est pas en train de faire n'importe quoi quand même. Mais des armes, il y en aura un peu plus dans le tome 6. Je ne peux pas trop en dire, oui. Mais il y en aura. Et un exemple quand même, histoire de donner 2-3 indices ici intéressants pour ceux qui sont venus. Un exemple d'idée qu'a eu Bruno, qui a été une idée assez géniale, dont je ne dirai pas grand-chose. Mais il m'a appelé un jour pour parler du tome 5. Il m'a dit, Fabien, j'ai eu une idée. Qu'est-ce que tu penserais de... Bip, bip, bip. Là, je ne vais pas vous dire parce que c'est secret ce qu'il m'a dit.
Oui, alors que j'étais en train de dessiner l'album, j'étais pleine réalisation d'une page. Et c'est vrai qu'un soir, en m'endormant, je me suis dit, ah tiens, si j'avais fait telle erreur. Et en fait, c'est parti d'une erreur. Et donc, j'ai expliqué bip, 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 bip.
Ah, vous vous demandez bien ce qu'il m'a dit. Hein. Il m'a donné une idée. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de cette idée? J'ai dit, c'est génial. Donc, on l'a mis dans le tome 5 et je ne peux pas trop vous en dire, mais je peux juste vous dire que si vous connaissez la série, si vous avez le tome 5, il y a quelque chose qui est caché dans le tome 5.
De spécial,
qui n'apparaît pas à la première lecture, mais qu'un certain nombre de lecteurs ont commencé à voir et ils nous envoient des emails en disant « Est-ce qu'on a bien vu? On a l'impression que dans cette case-là, il y a un truc bizarre et dans cette case-là aussi ?» Et ce n'est pas évident à voir. D'ailleurs, notre éditeur ne l'a pas vu tout de suite, c'est dire. On ne l'avait pas mis au courant tout de suite. Et c'est quelque chose qui aura une importance par la suite, qu'on a appelé l'enfant mystère, pour aller vite.
Oui.
Mais on ne peut pas en dire plus, mais c'était une vraie idée de Bruno, et pour moi, c'était une idée juste géniale. Donc voilà un exemple d'intervention de Bruno qui a nourri la série d'une manière fantastique.
Alors maintenant, je vais dire une chose pour les gens qui n'ont pas lu la série, peut-être les parents d'ailleurs. ces deux types-là sont des pervers.
Ah oui, oui, ça, oui.
Parce que,
oui,
bien sûr. À mesure que ça avance, le mystère s'épaissit, ce qui est quand même assez costaud, et en plus, ils sont là en train de l'ouvrir, ce numéro.
Avec en rajoutant
c'est
des mystères.
Oui, on est d'accord. Vraiment pas.
Alors, non, faut reconnaître que. Une série comme Seul, c'est une série un peu dure avec les lecteurs parce qu'on joue que sur des mystères, des questions. Bah, vous voyez bien à la fin
et
du
on
tome
arrive
5,
au tome 5, on est renvoyé à nos chères études parce que alors, on ne sait plus du tout où on en est.
Non, c'est-à-dire qu'on n'arrêtait pas de dire à la fin du tome 5, vous aurez compris des choses. Et puis c'est vrai qu'on comprend des choses, mais il y en a 10 autres qu'on ne comprend pas. C'est vrai que c'est un jeu avec les lecteurs qui est un peu pervers parce qu'il faut attendre un an pour avoir la suite, que nous on donne des indices au compte-gouttes. Mais on estime que nous, quand on était enfant, c'était un jeu qu'on a adoré avec des auteurs qu'on a appréciés. C'est-à-dire qu'on aimait bien attendre avant d'avoir un épisode, on aimait bien s'imaginer des choses. Moi, par exemple, j'aimerais bien penser que nos lecteurs, entre chaque album, se sont fait des scénarios à eux, qui se sont dit, moi, je crois que les gens ont disparu parce que ça, parce que ça. J'espère qu'ils ont joué entre eux en disant, alors imaginons qu'on serait tout seul dans la ville, qu'est-ce qu'on ferait? Parce que moi, c'est ce que j'aurais fait à 11 ans ou 12 ans.
Donc, oui, ce jeu-là, que certains puissent se dire, on va jouer comme dans Seul. Si tous les adultes disparaissaient, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait un camp là, dans les bois, et puis on ferait quoi?
C'est ça, et ce qui est exactement ce à quoi on jouait quand on était enfant, mais pas avec cette thématique-là, mais on jouait avec l'idée. Parce que l'idée que les parents disparaissent, il y a déjà ces deux choses qu'on évoquait. Il y a la peur, parce que bien sûr que ça serait un peu effrayant que nos parents disparaissent. Mais ce n'est pas que effrayant, parce que quelque part, on pourrait faire des trucs que nos parents nous empêchent de faire. Donc c'est ce mélange de fun, d'amusement et de peur qui, là encore, constitue la série.
Sauf que ça se gâte vite, puisque là, vous enrichissez la série, vous enrichissez l'histoire. Cette solitude, tout d'un coup, s'épaissit de mystère avec les animaux, les singes, les cairns, etc. Et en fait, les personnages sont en réalité totalement enfermés. C'est assez fascinant comme album, puisqu'on est... Cette année, le thème des Utopiales, c'est le thème des frontières. Là, il n'y a que murs et frontières dans tout l'album. Et là, le cinquième volume, avec la ville qui pivote...
Le sixième, ça va s'aggraver encore.
Oui, ça continue à s'aggraver d'album en album. Mais pour le plus grand plaisir des lecteurs, je veux dire, et notre plaisir. C'est exactement comme les séries américaines qui sont addictives. C'est-à-dire qu'on a envie d'y revenir à chaque fois en disant « J'espère qu'il va se passer quelque chose de neuf. » Et puis souvent, on dit « Ah zut, on n'a pas assez d'indices. » Et on a envie de revoir tous les premiers épisodes. Et ce jeu-là, pour nous, c'est exactement revenir aux origines de ce qui était la bande dessinée au début, c'est-à-dire du feuilleton. On attendait, ou même pas que la bande
les
dessinée.
Les feuilletons radio.
C'est, le feuilleton
on
radio.
Se demandait comment le héros qui est dans la voiture, qui est en feu, qui est en train de se diriger tout droit vers le ravin...
Allait s'en sortir.
Oui, allait s'en sortir. Et on est obligé d'attendre la semaine prochaine pour savoir comment le héros va s'en sortir une situation impossible.
Bon, là, c'est nous, on attend 52 semaines.
Oui, c'est le problème. Là, ici, je suis dans la situation où je me demande comment mon scénariste va s'en sortir avec.
Et comme je me pose la même question, nous aussi, on a une certaine tension. C'est de l'amusement et c'est de la peur.
Heureusement que le sixième est quasiment fini, donc ça nous laisse le temps.
Oui, quand même.
Ça vous laisse le temps de travailler pour qu'on puisse lire
tout
ça.
Et en sachant qu'en plus, c'est une histoire assez longue, puisqu'on prévoit, si tout se passe bien, et pour l'instant, ça se passe bien, de faire au moins 15 albums au total.
Bon, et bien, comme moi, je crois que nous allons tous y laisser notre chemise, parce que mon fils aime aussi Seul.
Aïe, 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 je suis désolé.
15 albums. Cela dit, 15 albums, ça fait, on est rendu à quoi? Au 5, dans 10 ans? Avec un peu de chance, il aura 23 ans, il ira autre chose.
C'est rien, 10 ans. Attends, il sera passé à bien pire, hein, bien pire. Entre-temps, il nous aura renié. Il dira, oh là là, c'est vieux qui font Seul. Qu'est-ce que j'en affiche?
Ouais, c'est ringard.
C'est ringard, Seul. Ouh là là. Mais j'espère que les
premiers étaient bien.
J'espère que les nouvelles générations diront, ah, mais moi, je connais pas. Prête-les-moi.
Sinon, vous parliez. Enfin, je vais garder encore la parole. On va parler là. Je recommence. On va garder la parole encore quelques minutes et puis on va passer le micro tout de suite parce que je suis sûr que vous avez des questions. Vous parliez des références. Déjà, William Golding, Sa Majesté des Mouches, que je recommande évidemment à tout le monde, dès l'adolescence d'ailleurs. Quoi d'autre? Influence, références en BD, manga, film, ce genre de trucs. Je pense
film,
à Dragonette, des trucs comme ça en manga.
Films, c'est La Planète des Singes qui m'a marqué étant petit. Ces singes qui parlent. Qui reproduisent une société quasi humaine avec leurs particularités, c'était assez génial comme histoire.
Le manga dont tu parles, Dragon Age, je l'ai découvert après.
Ouais,
il est beaucoup plus adulte que ce qu'on fait dans Seul, mais il est génial, c'est vrai. En fait, moi, j'aime bien l'idée qu'on picore des éléments de plein de choses qu'on a vues. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de sa culture générale, c'est-à-dire le fait de lire beaucoup, d'être curieux. Tiens, il y a un dragon bleu qui nous regarde, c'est toujours étonnant. Et qui nous montre son...
Sa queue.
Derrière.
Non, non, sa queue, enfin, quel esprit mal tourné.
Oui, autant pour enfin, non, mais cela, je ne sais pas lequel des deux est le plus étonnant. Donc, j'aime bien picorer dans tous les sens, du moment que c'est quelque chose qui nous a marqué enfant. La planète des singes nous a marqué enfant, parce qu'on disait, waouh, c'est incroyable, des singes qui parlent. Bon, dans Seul, il y a des singes, mais ils ne parlent pas. On s'est permis de faire des références à tout ce qu'on appelle la littérature post-apocalyptique, c'est-à-dire la littérature qui se passe après la fin du monde, quelque chose qui ressemble à la fin du monde. Et c'est vrai que dans Seul, on peut se poser la question au début de savoir si c'est la fin du monde.
Il y a aussi un film dans le dernier Seul, le numéro 5, un film qui nous a influencé sans qu'on le sache vraiment en l'écrivant, c'est le film de John Boorman, Délivrance.
Ah oui, voilà.
C'est plutôt un film pour adultes.
C'est complètement un film pour adultes.
Oui, c'est moins qu'on puisse dire.
Mais que j'ai vu étant jeune.
Interdit aux moins de 25 ans.
Et qui m'a quand même assez marqué aussi.
En fait, c'est vrai que pour chaque album, on a souvent en tête un exemple de film ou de livre qu'on a bien aimé. On aime bien aussi qu'il y ait des références aux jeux des enfants. Ça sera des fois la marelle, ça sera des fois, tiens, Pente est mort, des trucs comme ça qu'on met dans le...
Plouf dans l'eau.
Voilà, dans tous les albums. On aime bien garder ce côté ludique, un peu comme quand on était enfant et qu'on se disait, par exemple, tiens, bah, si je marchais le long de la Seine et si je tombe, je tombe dans un ravin de 10 000 mètres. Bah, ça, moi, je faisais ça tout le temps quand j'étais petit.
Il y aura des piranhas.
Il y aura des piranhas et de la lave. Dans Seul, quelque part, on peut le faire presque en vrai. Et ça nous amuse de glisser ça dans l'histoire, si c'est cohérent avec l'histoire hein, quand même, parce qu'il faut quand même un peu aller dans une direction à un moment donné.
Il y a quand même une histoire à raconter à la base.
Il y a quand même une histoire dont on sait parfaitement où elle va, n'est-ce pas,
oui,
Bruno?
Oui, bien sûr.
Enfin, dans les grandes lignes. Parce que ça, c'est une des questions qui est posée parfois.
Moi, je vais pouvoir les saouler tout à l'heure et voir les infos.
C'est qu'effectivement, des fois, les gens nous disent, mais vous savez où vous allez? Alors, la réponse est oui. Par contre, on s'autorise à y aller d'une manière qui sera différente de ce qu'on avait prévu au début, parce que des fois, quand on discute avec des lecteurs ou en dédicace, il y a des lecteurs qui nous disent, tiens, on aime bien ce personnage.
Des lecteurs
tout court. On aime bien ce personnage, on a bien aimé ce rebondissement, on se pose cette question. Et on essaie d'intégrer ce qui nous est dit de manière à ce que, si par exemple, il y a un mystère qui est encore plus mystérieux que les autres, aux yeux des lecteurs, parce que des mystères, il y en a beaucoup, on sait des fois, par les dédicaces, que ce mystère, il faut qu'on y réponde plus vite, parce qu'il y a une vraie question. Donc ça va changer un peu l'histoire, mais elle continuera à aller dans la même direction.
Et dernière question, peut-être une réponse rapide, parce qu'on l'imagine très facilement, le choix des personnages, ça correspond à quoi? Enfin, pratiquement les personnages principaux, Joji et Leila.
Ouais, alors c'était pas simple au tout début, mais en fait on voulait 5 enfants très différents. Et assez vite avec Bruno, on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui nous gênait un peu dans la bande dessinée franco-belge, c'est qu'il y avait très peu de représentations, on va dire, raciales différentes ou...
De personnes de couleur.
De personnes de couleur, et qui plus est, qui soient les vrais héros, qui ne soient pas qu'un personnage secondaire un peu sympathique qui est là pour aider le héros. Et c'est dans ce sens que Doji est devenu le personnage central de la série au début.
On s'est rendu compte, Fabien et moi, que c'était vraiment une envie très forte pour lui et pour moi. Moi, depuis toujours, je voulais faire un personnage principal qui soit un personnage d'origine africaine. Pour moi, c'était important, c'est quelque chose d'inexplicable.
Et puis c'est la composante de nos sociétés naturelles.
Bah c'est ça, c'est que ça nous semblait juste représentatif de ce qu'était notre société. Là où il a fallu qu'on fasse attention, c'est qu'au début, quand on avait imaginé les personnages, Doji n'était pas pensé comme étant noir, il était pensé comme étant un enfant qui avait eu une enfance difficile. C'était ça qui le caractérisait. Et quand on a eu l'idée ensuite de se dire, et pourquoi pas un personnage noir, on s'est dit, zut, est-ce qu'on ne va pas nous reprocher un cliché, à savoir, ah tiens, il est noir, donc il a eu une situation difficile. Alors, comme on ne voulait pas changer notre personnage, on a introduit le personnage de Leila, qui, elle, est, on pense, d'origine maghrébine, mais on ne sait pas exactement d'ailleurs de quel pays sont ses parents, par contre, dont on sent qu'elle est d'une classe socio-culturelle plus aisée, c'est-à-dire que son père est médecin, qui était une manière de dire, vous voyez, on n'a pas choisi avec un cliché qui consistera à dire parce qu'ils sont de couleur, ils viennent forcément d'une catégorie défavorisée, mais qu'il y en a un qui fait partie d'une certaine classe de la population et l'autre d'une autre. Et on voulait aussi faire attention à ne pas tomber, et c'est pour ça qu'on n'a pas mis un troisième personnage asiatique, ce qui aurait pu être possible. On ne voulait pas tomber non plus dans du United Color of Benetton, le côté, on va vraiment mettre toutes les populations possibles ensemble, mais ça nous a été demandé par des lecteurs quand même. Donc au tome 6 ou 7, il n'est pas impossible qu'on voit apparaître un autre personnage important asiatique.
D'accord. Allez, je vais faire passer le micro dans le public. J'espère que vous avez je suis sûr que vous avez de nombreuses questions. Ah, ça y est, j'en vois une.
Il n'y a pas de mauvaises questions. Hein. Vous pouvez vraiment tout ce que vous voulez.
De toute façon, moi, les miennes, elles sont toujours pas très intelligentes.
Est-ce que vous avez la fin de l'histoire en tête?
Ça, c'est la meilleure question.
Alors, on a les grandes lignes de l'histoire, c'est-à-dire on sait vers quoi vont les personnages. On a les grandes étapes principales de l'histoire. Bien sûr, je ne vais pas te dire ce que c'est tout de suite, hein, parce que sinon tu ne voudrais plus du tout lire la BD, c'est dommage. Simplement, comme je le disais, on s'autorise à ce que si un lecteur nous dit qu'il y a un personnage qu'il a adoré, et s'il y a plusieurs lecteurs qui nous disent que tel personnage, ils l'ont vraiment aimé, peut-être qu'il prendra plus d'importance dans l'histoire, et peut-être qu'il va jouer un rôle qui va devenir plus important que prévu. Donc on sait quelle est la fin de l'histoire. Par contre, peut-être que la façon d'y aller va être différente. C'est comme si on savait, par exemple, on part de Nantes et on veut aller à Paris. On sait qu'on va à Paris. Par contre, peut-être qu'on va passer par une ville plutôt qu'une autre, en fonction des réactions de nos lecteurs. Parce que c'est assez important à nos yeux de nous adapter aussi à ce que nos lecteurs nous disent. Ça ne veut pas dire qu'on changera certaines choses. Il y a des choses, par contre, qu'on ne changera pas du tout parce qu'elles sont très importantes à nos yeux. Par contre, parce qu'on aime bien surprendre les lecteurs, si on faisait que ce qu'ils attendent de nous, bah, il n'y aurait plus de surprise. Donc on essaie aussi un petit peu de jouer avec l'attente du lecteur, puis des fois on fait le contraire. Ça aussi, c'est un peu, des fois, un petit peu bon. Mais on sait où on va quand même, oui. Mais je ne dirais pas...
Une autre question ?
Moi j'ai une question à poser.
Ah, intéressant.
Oui, bah oui quand même, j'en profite. Ce qu'on aime bien savoir, quels sont les personnages préférés des enfants dans la série. J'aimerais bien savoir, par exemple, parmi vous, est-ce que ça peut être un enfant au hasard ou quelqu'un qui a envie d'en parler.
Qui a envie de répondre, voilà, quel est son personnage
préféré. Quels seraient vos deux personnages préférés, même, je dirais, dans la série. Ça m'intéresserait de savoir. Et si vous ne vous rappelez plus des noms, vous décrivez juste le personnage.
Qui va répondre les deux personnages préférés de la série.
Là-bas. Oui.
Doji.
Oui.
Et Camille, parce qu'elle n'est pas vraiment comme les autres.
Et est-ce que je peux savoir pourquoi tu trouves qu'elle n'est pas comme les autres, Camille ?
Elle pense qu'ils vont, comme tout le monde à peu près, elle pense qu'ils vont revenir, mais elle, on va dire, elle pille pas des affaires, elle continue à faire ses devoirs et elle veut être parfaite.
D'accord. Ouais, c'est bien ça.
Il y a une maman heureuse là.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nous dire quels sont leurs deux personnages principaux qu'ils aiment bien ?
Il y a personne qui aime Saul.
Oui, c'est ça, j'aurais dû d'abord poser la question. Vous aimez la série ? Non.
Non, Saul, le
chef. Ah, Saul, d'accord. Moi, je crois que c'était la série Saul.
Oh, non.
Alors, on va voir.
Ça se prononce Saul ou Saül ?
Saul.
Saul.
Mais ouais. On pourrait dire Saül, mais il faudrait qu'il y ait un tréma sur le U.
C'est la question que je me suis posée à chaque lecture d'album. Alors, qui veut répondre à la question ?
Vos personnages préférés ? Est-ce que au premier rang, est-ce que vous pouvez nous dire
Doji et le tout petit là.
Terry. D'accord.
Et pourquoi tu les aimes bien eux ?
Parce que Terry il est un petit peu bête des fois.
C'est celui qui me ressemble peut-être.
Et parce que Doji il fait tout le temps des trucs un peu incroyables.
Un peu incroyables, d'accord.
Ben moi comme lui, sauf que j'aime bien Doji parce qu'il tape sur tout le monde.
Il tape sur tout le monde.
C'est intéressant.
Oui, mais il y a une morale, hein, je précise aux parents.
Ouais. C'est le défenseur, il les protège.
Quand même.
Exactement pareil. Pareil.
Et c'est toujours un peu impressionnant avec le micro. Hein.
Bah ouais.
J'en profite pour rebondir sur ce que tu disais sur Saul. On a fait des interventions dans des écoles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série, Saul, c'est un personnage qui est un antagoniste des héros, c'est-à-dire un ennemi. À un moment donné, des héros, il est dans un parc d'attractions et c'est le chef de clan d'un autre groupe d'enfants.
C'est pas un gentil, hein, on peut le dire comme
alors,
ça.
Il ne nous apparaissait pas si gentil que ça, effectivement. Et si vous lisez l'album, vous verrez qu'effectivement, il a des idées assez arrêtées sur ce qui est le bien et le mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a fait des interventions dans des écoles primaires, on s'est rendu compte, c'est pour ça que ta question est assez pertinente, que c'est un des personnages préférés de beaucoup d'enfants.
C'était un peu pour ça que je l'ai posé.
Et qu'effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui trouvent que Saul est un personnage plutôt positif. Même s'il voit bien que des fois il est un petit peu ambigu.
Mais il le trouve cool quand même.
Il trouve que c'est un vrai chef. Et ça a été une vraie révélation pour nous de se dire, bon, c'est un personnage qui était important pour la série, donc déjà avant. Mais d'avoir ce retour des enfants et de voir que, moi j'ai eu par exemple un enfant qui m'a dit, moi je pense que Saul il n'est pas aussi méchant qu'on pense et je pense qu'il va changer. Mais ça m'intéresse de savoir ce qu'attend cet enfant. Ça ne veut pas dire que je vais là encore me servir de ce qu'il me dit et appliquer ce qu'il me dit. Mais c'est intéressant de le savoir parce que ça veut dire que notre perception à nous de nos propres personnages n'est pas forcément la même que celle de nos lecteurs. Et ça, c'est passionnant.
D'autres lecteurs veulent nous dire qui sont leurs personnages préférés ?
ou autre chose sur la série,
des questions
sur la suite, ou des choses que vous n'avez pas bien comprises et vous voudriez en savoir plus.
Ou sur la BD.
Vous avez Fabien Velman et Bruzzo Gazzotti que pour
des
vous.
Des questions sur la BD en général ou
justement, c'est ça qui est impressionnant.
Hop.
Moi, c'est les deux qui ont les yeux bleus. Qui...
Alexandre et Célène.
Ah, oui. Voilà, parce qu'ils sont super zarbis. on ne sait jamais. Puis on voit que bah, dans l'histoire, ça va faire que eux, ils sont importants pour le scénario. Et voilà.
C'est de savoir.
C'est vrai que c'est des personnages qu'on a eu beaucoup de plaisir à créer avec Bruno. On parlait des références à des films. Par exemple, ces deux personnages qui ont les yeux très clairs et qui ont un comportement un peu bizarre étaient inspirés d'un film fantastique des années 50 qui s'appelait Le Village des Damnés, où d'un seul coup, un matin, il y a 12 enfants qui naissent le même jour, je crois. Quand ils grandissent, ils sont tous blonds, ils ont tous les yeux très très blancs et ils ont un comportement très très zarbi, comme tu le dis bien. Et on a adoré ce film. Et on s'est dit, tiens, on va y rendre un petit hommage.
C'est un film un peu pour les grands, mais je me demande comment nos parents nous ont laissé voir ce film.
C'est une époque où nos parents ne s'occupaient plus de nous et nous laissaient devant la télé. C'est une honte, si je peux me permettre. C'est pas de nos jours qu'on ferait ça. Et c'est vrai que ces personnages, nous, on a eu beaucoup de plaisir à les écrire, à les dessiner, parce qu'ils sont assez effrayants. Et en même temps, dans le tome 5, par exemple, on commence à voir que peut-être leur motivation... Alors, ils sont horribles, hein, ils essaient de tuer les héros pendant tout l'album. Mais on commence à voir que leur motivation, ce qui les pousse à vouloir tuer les héros, n'est peut-être pas aussi simple qu'on se croyait, et que c'est peut-être pas des méchants au sens classique du terme. Et ça, nous, on adore jouer avec les codes, on adore surprendre les lecteurs et leur dire, est-ce que vous pensiez qu'ils étaient méchants, mais est-ce qu'ils le sont tant que ça? Est-ce qu'ils ont une bonne raison pour faire ce qu'ils font? Et ça aussi, c'est passionnant. Donc c'est assez chouette de voir que ça peut te plaire aussi.
Peut-être une toute petite dernière, vu qu'il nous reste encore quelques miettes de minutes.
Ah, il y en a une au fond.
Ah oui, je vois. Je vais regarder de l'autre côté.
Je voulais plutôt m'adresser à Bruno. Je voulais savoir si vous travaillez plutôt manuellement ou vous utilisez aussi l'ordinateur ou c'est 50-50. Enfin, comment vous faites ?
Non, moi je suis quelqu'un d'assez traditionnel.
Ah oui, non. Il y a la 3D...
Donc je peux expliquer. En fait, c'est vrai qu'il y a des auteurs maintenant qui travaillent beaucoup sur Photoshop ou des programmes informatiques pour faire leurs planches. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'encore travailler au crayon et à l'encre de Chine, ce qui se perd aussi avec les techniques d'impression. Pour le moment, on peut juste dessiner au crayon sans devoir passer par l'étape de l'ancrage, donc de la plume, de l'encre de Chine et du pinceau, etc. Donc je me vois pas arrêter de dessiner sur papier avec du crayon et de l'encre de Chine. C'est vrai que Fabien a raison. Par contre, je peux utiliser l'ordinateur pour faire de la 3D, et donc créer des décors en 3D ou créer des véhicules en 3D, les imprimer et m'en servir après pour les dessiner sur la planche originale. Donc, c'est un mélange de techniques modernes et de techniques à l'ancienne que je trouve assez intéressant. Et la 3D me permet de gagner du temps dans la création de décors,
Par exemple, dans le tome, je crois que c'est à partir du tome 4 et 5, on voit l'espèce de camp de base des enfants, qui est une place avec des barrières qui ferment partout au cas où ils seraient attaqués par des choses mystérieuses. Parce qu'il y a souvent des choses qui attaquent les enfants dans notre BD, c'est malheureux. Cette place, j'étais fasciné parce que quand j'étais allé voir l'atelier de Bruno, il m'avait montré, elle était complètement modélisée en 3D, et après il plaçait sa caméra comme une caméra de réalisateur, c'est-à-dire qu'il mettait virtuellement la caméra quelque part, on voit l'angle qu'il veut, et il peut mettre la taille qu'il veut, il peut même mettre un véhicule, le bus, par exemple l'autobus, qui est d'ailleurs au passage un clin d'œil à une série qui s'appelait l'autobus impérial, je crois.
Oui, c'est ça.
Une série d'il y a très longtemps.
Le nôtre est vert.
Le nôtre est vert, à l'époque, dans la série, il était rouge. Mais enfin, c'est des enfants, c'est une série avec des enfants qui vivaient dans un autobus londonien, mais dans un terrain vague. Il l'a modélisé aussi, ce qui fait qu'on peut se promener presque à l'intérieur de cette image, si ce n'est qu'au lieu d'un film où on pourrait vraiment animer tout ça, en BD, il choisit juste la photo qui lui convient et il la reproduit dans la case.
Donc je triche un petit peu.
Non, mais c'est du boulot en même temps.
Oui, c'est une espèce de... En fait, c'est le plaisir de encore jouer au Lego. sur ordinateur, de créer, de faire des maquettes d'avions ou des maquettes de voitures, et de les faire non pas avec du plastique, mais sur ordinateur. Donc c'est exactement la même chose que, par exemple, des auteurs comme Leloup qui dessine Yoko Tsuno, fait ses modèles réduits en vrai, et puis il prend les photos et il les dessine d'après photo.
Et un truc qui est assez amusant, c'est toujours un jeu avec moi et Bruno, c'est que quand il vient de modéliser un truc super long, super pénible et tout, je dis, on n'en a plus besoin l'album suivant. Genre, tiens, le bus, non, je sais pas, le bus, on va peut-être pas le garder. Et je le vois qui s'effondre, comme ça, qui se dit, oh non, il m'a fait faire tout un modèle pour rien. Donc des fois, je fais un effort en me disant, bon, allez, t'as fait un truc en 3D, on va essayer de le revoir un peu.
Oui, c'est moi qui insiste pour dire, bon, le bus, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, donc il faut le réutiliser absolument.
Pas qu'on remplace, là, oui.
Voilà, ben ce sera le mot de la fin. Ben je vous remercie beaucoup. Je remercie Fabien Wellmann et Bruno Gazzotti d'être venus.
Ben, merci à tout le monde.
Les questions du
merci
public. Vous pouvez maintenant aller assister aux dédicaces de nos auteurs et de bien d'autres à la librairie et puis surtout acheter leurs albums et leurs livres. Sinon, à 17h, vous aurez de l'autre côté là-bas, salle Chaillol, une conférence sur imaginaire réel, quelle frontière, quelle passerelle, avec Serge Lehmann, Michel Jury, Gérard Klein, Larry Niven, animé par Carole Ecoffé. Ça devrait être très très bien parce que c'est du lourd, on va dire. Et de ce côté-là, c'est pas mal du tout aussi, donc vous pouvez rester. C'est performance physique, la fin des records ou pas, avec Fabrice Collin, Stéphane Prétagu, Marie-Carole Paruy et Jérôme Noiret, le tout animé par notre ami Jérôme Vincent.
Et je précise que la dédicace est faite en priorité pour les enfants, c'est-à-dire que même s'il y a des adultes dans la file d'attente, les enfants passent devant et on leur fait les dessins en premier.
Même si je cours vite ?
Même si tu cours très vite, ça ne marchera pas.
Bon, j'envoie mon gamin, je m'en fous.
Oui, voilà, les sournois enverront leurs enfants.
Merci beaucoup.
Merci.